D'accord. Tu t'es un peu intéressé, Valerio, au discours sur ces drogues-là. Tu voulais nous dire des choses. On vient d'écouter des médecins qui parlaient du LSD d'une manière qui ne nous paraît pas intéressante, puisqu'elle est médicale et elle passe sous silence beaucoup de dimensions de l'expérience psychédélique, notamment le plaisir et notamment l'expérience collective. Je sais pas, est-ce que toi, tu voulais réagir par rapport à ça?
En particulier sur les psychédéliques, voilà. Je commencerai à parler de l'étymologie du terme psychédélique. En fait, il faut dire que c'est un terme assez nouveau. Il a été inventé dans les années 50 par un psychiatre en particulier, qui s'appelle Humphrey Osmond, qui a proposé dans une lettre en particulier à Aldous Huxley, quand on parle de ce type de substances, que en fait, ils n'étaient pas connus du tout de la part des Occidentaux, des hommes occidentaux, avant 1930. Et il a proposé d'appeler cette substance psychédélique, qui signifie en fait qui révèle la psyché, l'âme. Et à propos d'un autre terme qui était plutôt à la mode en ces périodes-là, pendant les années 50, qui c'était psychotomimétique, qui mime une psychose. Enfin, c'est un terme assez qui met au centre la perspective psychiatrique et psychologique. Enfin, il y a un essai qui est dédié à ça, dans lequel il choisit en fait, le terme psychédélique, parce que ça donne un peu plus l'idée de ce qu'ils font, ces substances. Et ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Je préférais utiliser ce terme contre aussi un autre terme qui est hallucinogène, qui est le terme que normalement ils nous enseignent à l'école, qui signifie qu'il génère des hallucinations. Et du coup, ça donne un peu l'idée qu'il crée quelque chose qui n'existe pas. Au contraire, si on parle des psychédéliques, ça donne l'idée de quelque chose qui, ça révèle quelque chose qui déjà existe, qui en fait c'est nous, c'est notre tête, c'est notre culture, notre subjectivité. Du coup, il faut toujours tenir en tête ça quand on parle des psychédéliques hallucinogènes. Enfin, après, ce sont des termes un peu complémentaires, on peut utiliser les deux, ça dépend de la perspective. Mais l'important, c'est que l'utilise de cette substance, il dépend du sujet. Du coup, ils sont des substances très difficiles à gérer dans un certain sens. C'est aussi pourquoi il y a eu des expérimentations dans les années 60 faites par la CIA et l'intelligence américaine et l'armée américaine pour essayer en fait, de contrôler la pensée des espions, etc.
Alors ça, c'est utilisé comme une arme à mettre chez les ennemis
L'armée utilisait... l'utiliser pour créer la panique et le chaos dans les lignes ennemies.
D'accord. Ça n'a jamais été utilisé pour améliorer la perception des propres armées américaines, par exemple.
Non.
Efficacité.
Enfin, je n'ai pas la connaissance de ça, parce que le problème, c'est qu'ils les utilisaient à des grosses doses, normalement. Et du coup, évidemment, pour l'armée, ce n'est pas bien du tout, parce qu'ils voyaient qu'ils produisaient des hilarités. Enfin, ils produisaient des effets qui, pour des soldats, ils ne sont pas bien du tout. Mais après, si quelqu'un a déjà expérimenté ce genre de substances, ils connaissent bien quels sont les effets. Ils produisent une haine contre l'autorité, contre chaque type de hiérarchie. C'est pour ça qu'il y a en fait des grosses doses psychédéliques qui ne sont pas conseillées pour aller à travailler, par exemple, parce que en fait ils donnent un peu l'effet de la sensation du fait que le travail c'est un truc qui ça fait pas du bien du tout.
Et ça n'empêche pas que dans la géographie américaine, il y a une ère importante pour l'usage de psychotropes, c'est côte ouest en fait. Mais c'est aussi dans les années 60-70 que s'invente toute l'industrie de pointe, la Silicon Valley. On sait que là-bas aussi, ils ont fait un usage des drogues et que ça a même permis, en quelque sorte, de renouveler l'imaginaire industriel.
Je pense que les Californiens qui ont inventé l'Internet et qui ont inventé le fait de se voir à l'autre bout du monde par image sur un téléphone, ils ont mis en pratique des rêves, et ces rêves n'auraient pas pu exister si ces Californiens n'avaient pas pris de drogue. Je pense qu'il y a un lien des causes et effets que les drogues produisent, aident à produire une autre façon de voir la réalité. Je suis parfaitement d'accord avec Valerio. Moi, j'ai pris du LSD, j'ai pris du peyote, j'ai pris des champignons et autres substances psychédéliques, et j'ai jamais eu d'hallucinations. J'ai vu la réalité d'une autre façon. Surtout avec les peyotes, que j'ai pris plusieurs fois, on a une vision des couleurs, notamment, qui est complètement autre. Ce n'est pas par hasard qu'Alexandre Rouillet, qui avait fait sa thèse en 1927, c'était un pharmacologue parisien qui a voyagé au Mexique, qui a fait sa thèse sur le peyote, une thèse monumentale et encore tout à fait pertinente. Il avait baptisé les peyotes la plante qui fait les yeux émerveillés. Mais il y a d'autres sensations avec des champignons. Je me souviens, j'ai pris des champignons un jour à Paris avec un ami. On est allé au bois de Vincennes à l'automne et j'avais l'impression de marcher sur les feuilles comme si je marchais sur des matelas à ressort. Hein? Ce genre de sensations-là, évidemment, produites par les substances psychédéliques, c'est une autre façon de vivre dans la réalité. Mais on n'est pas sorti de la réalité, on ne voit pas des éléphants roses, jamais. Ça, c'est des conneries inventées par des gens qui ont une approche fausse. Vous avez passé des propos des médecins. Moi, je pense qu'en matière de drogue, les connaissances universitaires, médicales et autres, théoriques, ne peuvent pas être dissociées des connaissances et des savoirs pratiques, profonds de ceux qui sont dedans.
Et justement, pour divulguer un secret profane, est-ce qu'on trouve encore des coins à champignons hallucinogènes?
J'ai pris les champignons hallucinogènes qu'on avait trouvé à un grand malier parisien, là où il y a des bus de vaches à l'automne. Normalement, il y a des champignons hallucinogènes qui poussent. Hein, dans tous les coins de France, il y a des vaches, en fait.
C'est pas encore la saison, mais on retiendra le conseil.
Voilà. À l'automne, sur le bus de vaches,
ils
sont tout petits, avec comme un bonnet de schtroumpf.
Oui, c'est ça.
De la Moyen Âge, bien sûr, l'époque moderne en Europe, on a utilisé des plantes psychédéliques comme la datule, la belladone, jusquiame et autres mandragores, par les sorcières qui étaient en fait des guérisseuses. Les médecins prenaient soin des riches, pour faire bref. Les guérisseuses, surtout, prenaient soin des pauvres, c'est ça, traditionnellement. Les pauvres n'avaient pas droit aux médecins, ils n'avaient pas les sous pour le payer. Et donc il y avait des guérisseuses qui utilisaient ces herbes pour justement pour des accouchements, pour des maladies, pour des douleurs. Le problème c'est que non seulement les connaissances des sorcières, dites entre beaucoup de guillemets, se sont perdues, mais il n'y a pas vraiment de tests et encore moins d'études sur ces pratiques. Il y a eu des bibliothèques entières écrites sur les sorcières en tant que rebut de la société, sorcières brûlées, sorcières sous procès, etc. Mais on ne s'est pas intéressé aux plantes qu'elles utilisaient et comment elles utilisaient et en quelle dose elles utilisaient. Parce que toute drogue, la question c'est la dose. Petite dose de peyote pour dire qui est cassée hallucinogène, est un stimulant et un coupe faim, un coupe soif. Un petit morceau, c'est comme si vous preniez un sniff de cocaïne, ça vous donne la pêche, et c'est tout. Aucune porte de la perception s'ouvre avec une petite dose. Hein. Il faut en prendre pas mal. Cette expérimentation est arrivée à la juste dose pour éviter d'ailleurs des risques. Un régime prohibitionniste, ce n'est pas possible. Donc il faut arrêter cette prohibition des drogues qui est aberrante parce que toutes les drogues sont et en nature et en pharmacie.
Je pense qu'on va terminer là-dessus cette émission de La Rouscaille sur le psychédélisme. Merci à nos invités. Voilà, on n'a encore pas parlé des élections cette fois-ci, mais c'est pas grave. Les extraits sonores de l'émission étaient extraits du premier album de Pink Floyd. Il y avait des extraits de Revolver, surnommé l'acide album des Beatles, et aussi Moment de Stackhausen, c'est de la musique concrète produite en 1965. Voilà, on va vous laisser en vous souhaitant de bons voyages, et on va écouter pour finir un morceau de cumbia psychédélique. Au revoir et rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission de La Rouscaille.
La rouscaille. La rouscaille.